France Info.
Bonjour William Gay-Costa.
Bonjour.
Et l'Ukraine à la une ce matin, justement, l'Ukraine qui tente de faire changer le cap des États-Unis et de Donald Trump.
Des négociations ont eu lieu cette nuit alors que Washington a présenté un plan de paix qui reprend les revendications de Moscou. Vous entendrez dans ce journal les premiers mots de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, libéré il y a 10 jours et de retour en France. Le monde du vin qui réclame 200 millions d'euros à l'État, la profession en crise, rencontre la ministre de l'Agriculture ce soir. Et puis, on dira au revoir à Juan et Yuan Li, le couple du zoo de Beauval, le couple de pandas qui rentre en Chine.
Bienvenue et belle journée sur France Info.
Les responsables ukrainiens n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts. Voilà ce qu'a écrit hier Donald Trump et qui rappelle furieusement cette altercation avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale en début d'année. Le président américain et sa diplomatie poussent depuis ce week-end un nouveau plan de paix proche de ce que réclame la Russie. Cette nuit, des émissaires des États-Unis et de l'Ukraine sont sortis d'une réunion à Genève en se félicitant finalement de grandes avancées. Mais Jérémy Lange, difficile de dire ce matin si Kiev a réussi à obtenir gain de cause.
Devant les caméras en début de soirée, Marco Rubio s'est dit optimiste sur la suite du processus. Rien n'est insurmontable, a estimé le chef de la diplomatie américaine en parlant du plan de paix de Donald Trump.
L'objectif était de prendre ces 28 points du plan de paix, ou 26 selon les versions, et de réduire les points en suspens. Et c'est ce que nous avons fait de manière très substantielle. C'est probablement la journée la plus productive que nous ayons eue à ce sujet.
Marco Rubio a même ajouté que Donald Trump était satisfait, ce qui n'était pas flagrant hier lorsque le président américain a posté un message virulent en pleine négociation accusant les Ukrainiens d'être ingrats à son égard. Message reçu 5 sur 5 par le bras droit de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, qui emmenait la délégation ukrainienne.
Les Ukrainiens veulent avoir la paix plus que quiconque sur cette planète. Nous remercions nos grands amis les États-Unis et tout particulièrement le président Trump pour leurs efforts pour parvenir à cette paix.
Reste qu'on ne sait pas sur quoi se sont entendus Américains et Ukrainiens, ni même s'ils ont repris la contre-proposition formulée par les Européens et qui apporte des garanties de sécurité à Kiev.
Jérémy Lange, RFI pour France Info en Suisse et pour l'heure pas d'accalmie en Ukraine. 4 personnes ont été tuées lors de frappes ces dernières heures à Kharkiv dans l'est du pays.
7h03 sur France Info. Être prisonnier, c'est une humiliation.
Voilà ce que déclare Boualem Sansal. Première prise de parole depuis sa libération. L'écrivain franco-algérien s'est confié au micro de France Inter après avoir été durant un an au cœur d'un bras de fer entre ces deux pays. Sa libération peut-elle mener une forme de détente entre Paris et Alger ? Boualem Sansal y croit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation particulière. Elle est totalement isolée. Ils sont au fond du gouffre. Et on a un atout, c'est Boualem Sansal. On va le lâcher. Alors on attend les suites de l'épisode de Boualem Sansal.
Vous espérez que votre libération aide à ce que ça aille mieux ?
Oui, je pense que c'est... En Algérie, presque tous les gens le disent, on croit cela. On l'a libéré comme amorce.
Un Boualem Sansal au micro de Benjamin Duhamel sur France Inter. À l'écrivain d'y penser à Christophe Glaise, le journaliste sportif français qui, lui, est toujours détenu en Algérie. Le Premier ministre réunit les chefs des groupes parlementaires à Matignon. Aujourd'hui, le débat budgétaire prend une mauvaise tournure en ce moment pour Sébastien Lecornu. L'Assemblée nationale ce week-end a rejeté à la quasi-unanimité le volet recette du projet de budget de l'État. Le texte part désormais au Sénat dans sa version initiale. Une autre réunion importante pour le gouvernement aujourd'hui, cette fois entre la ministre de l'Agriculture et la filière viticole en difficulté face à la consommation qui baisse, aux droits de douane qui grèvent les exportations. Édouard Marguier, le monde du vin réclame donc 200 millions d'euros pour financer notamment une nouvelle campagne d'arrachage de vignes.
Les parcelles arrachées l'an dernier n'ont pas suffi à sortir de la crise. Les 60 000 exploitations viticoles françaises produisent encore trop de vin. Jérôme Bauer est vigneron en Alsace et président de la CNAOC, la Confédération Nationale des Appellations d'Origine Contrôlée.
Alors, il y a déjà eu 27 000 hectares l'an dernier d'arrachage aidé, mais en réalité il y en a eu plus, hein, puisqu'il y en a qui arrachent des vignes sans aucune aide, et on pense qu'il faudrait au moins encore 30 000 hectares de vignes qui devraient être arrachées malheureusement.
Toute la France est concernée, mais la crise est particulièrement marquée dans les régions qui produisent du rouge, Languedoc, Aquitaine, Rhône. Ils réclament donc la même aide que l'an dernier, 4 000 euros à l'hectare. L'enveloppe du ministère était de 120 millions d'euros pour couvrir les coûts d'arrachage définitif et faciliter la transition.
C'est un plan social, hein, clairement. Aujourd'hui, la pyramide des âges fait que beaucoup de vignerons sont proches de la retraite sans trouver de succession. Hein. Forcément, on comprend, vu la situation économique. Donc cette aide, elle est là pour avoir des terrains nus pour y produire d'autres choses.
Il estime que le vignoble français doit réduire de 20%. De 800 000 hectares aujourd'hui, il doit passer sous la barre des 700 000 hectares dans les 5 ans à venir.
Édouard Marguier, 5 femmes ont perdu la vie la semaine dernière en à peine 2 jours. Des féminicides et le nombre de plaintes pour violence explose ces dernières années. Alors comment mieux les combattre? Une proposition de loi transpartisane sera déposée aujourd'hui. Et Laurence Perron, vous avez pu consulter le contenu de ce texte.
Cette loi intégrale, c'est une boîte à outils très complète pour interpeller aussi l'exécutif qui a érigé depuis 2017 la lutte contre les violences faites aux femmes comme prioritaire. Or, plus de 90% des affaires de viol sont classées sans suite. 8 plaintes sur 10 échouent.
Ces violences restent majoritairement impunies.
La socialiste Céline Thiébaut-Martinez qui défend la loi entend que tous les policiers et les gendarmes soient formés. Il faut revenir aussi sur la prescription. Les affaires Pellico ou Bétaram en ont été l'illustration.
La prescription glissante, c'est une prescription qui commence au moment où les actes sont révélés en fait. Donc au moment où la victime se manifeste.
Que la cour d'assises soit aussi le lieu pour juger le viol.
On souhaite un retour du jury d'assises parce que le jury d'assises, c'est le jury populaire.
Afin de lutter aussi contre les violences gynécologiques, le consentement de la patiente sera requis.
Ce texte, il doit permettre aussi aux professionnels de santé de comprendre que, oui, certes, ils ont parfois la vie d'être humain entre leurs mains, mais pour autant, le consentement est fondamental.
Enfin, pour chaque enfant, dès son entrée en maternelle, un entretien annuel.
Puisqu'on sait qu'en moyenne, 3 enfants par classe sont victimes de violences sexuelles.
Le coût de ces mesures avoisine les 3 milliards d'euros, une revendication historique des associations de défense des femmes.
Laurence Perron, et puis c'est un autre type de violence qui touche les femmes, les violences économiques. Lorsqu'elles n'ont pas de compte bancaire ou de carte à leur nom, quand leur compagnon contrôle leurs dépenses ou confisque leur salaire, près d'un quart des femmes les subissent, selon un sondage IFOP pour la Fédération Nationale Solidarité Femmes et le Crédit Mutuel que France Info révèle ce matin.
Il est 7h07, Olivier Giroud connaît toujours le chemin des buts.
À 39 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football a marqué un doublé hier soir en Ligue 1. Il évolue maintenant au LOSC à Lille, le club du Nord qui s'impose 4-2 face au Paris FC en clôture de la 13e journée de championnat. Et puis Jérôme, c'est l'heure des adieux aux eaux de Beauval. Ce week-end, de nombreux visiteurs sont venus dire au revoir à Juan et Yuanzi. Après 13 ans dans le parc français, les deux pandas, le couple de pandas, repart demain en Chine, Lou Bourdi.
Derrière la vitre des pandas,
ah, je suis contente.
Voilà. Il y a ses deux amis venus exprès les voir.
J'adore, c'est fou.
Je ferais bien un petit câlin, moi.
Ouais. Bonjour mesdames.
Et puis il y a celle qui tombe à pic.
J'ai un petit sujet parce que les pandas vont bientôt partir.
Ah bon? C'est vrai? Ah mince.
Et oui, le grand départ dans un avion affrété spécialement pour eux.
Du coup, c'est deux soigneurs chinois qui viennent avant le départ. Et du coup, c'est eux qui vont accompagner les deux pandas en Chine.
Alexia est soigneuse animalière.
Vous serez là le jour du départ? Oui, je serai là. Comme toute l'équipe, je pense.
Et elle le dit, elle aura la larme à l'œil. Car dès leur arrivée il y a 13 ans, les pandas sont tout simplement devenus un phénomène. Rodolphe Ledor, le directeur.
Ah bah tout à fait, arriver des pandas, ce fut un événement incroyable. J'avais la chance d'être dans le cockpit de l'avion de la compagnie FedEx qui les a ramenés de Chine en 15 janvier 2012.
En janvier 2012, le Boeing 777 affrété spécialement par FedEx, surnommé le Panda Express, atterrit à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Ces événements ont fait que Beauval est aujourd'hui de très loin le premier parc zoologique visité en France et nous espérons bien évidemment continuer au programme Panda, voir naître d'autres pandas, donc peut-être d'autres échanges de pandas avec nos amis chinois dans le futur.
Le chiffre d'affaires du parc a été multiplié par 12 depuis l'arrivée des pandas.
Voilà, on était obligé de la mettre. Hein. Alors Jérôme,
non,
je sens.
Vous étiez obligé de rien.
Je sens que cette info, ce départ, vous a mis un petit coup de bambou. Mais si vous voulez aller voir des pandas à Beauval, sachez que les jumelles nées dans le parc restent sur place.
Merci William Gay Costa et heureusement que Chantal Goya était là pour me redonner le moral. Christine Peña, oui, on a peut-être besoin de se redonner un peu de moral ce matin. Le froid est moins intense.
Alors voilà, on a moins de froid, on n'a pas de gelée déjà cet après-midi. Les températures reprennent un peu de couleur de saison, hein, puisqu'on est tombé quand même très bas. 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux et 17 à Perpignan et Toulon cet après-midi. Sous la pluie sur la moitié sud surtout, avec cette vigilance orange sur le sud-ouest, 3 départements. Pour ces fortes pluies, le risque d'inondation et puis un temps orageux du côté de la Manche.